Vous êtes en compagnie de Patrick dans Ciné Forever, l'émission sur le cinéma. Salut à tous, bienvenue dans Ciné Forever, l'émission consacrée au cinéma. Et à ma gauche, j'ai Super William, l'homme des news et qui interrogera également avec moi l'invité d'aujourd'hui.
Bonsoir
Abou.
À tous.
Bonsoir.
Abou au centre, l'homme de la technique, l'âme de la radio.
On va dire milieu de terrain, tu vois.
Voilà, absolument. Je te passe la balle, hein. Voilà. Je la renvoie s'il te plaît. Et puis, à ma droite, l'invité de l'émission, Bruno Terrier. Bonjour, Bruno.
Salut, Patrick. Salut, tout le monde.
Et qui est venu pour nous parler du magasin Metaluna et de sa passion pour le cinéma fantastique depuis plus de 30 ans, on va dire.
Ouais, largement. Et les deux sont tout à fait compatibles.
Et voilà. Mais avant tout, avant d'attaquer l'actualité cinématographique, et de parler avec Bruno de tout ce qu'il aime et du magasin Metaluna, nous allons en maestro passer un peu de musique. Donc voilà, nous allons commencer par les news à travers la planète. Vas-y, vous lire.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Patrick, bonsoir Bruno. Salut à vous.
Salut.
Salut, salut, salut.
Ça va ?
Oui, ça va.
Ça
très
va.
Heureux de vous accueillir ce soir.
Ah oui, c'est toujours un plaisir.
Oui, en plus, j'ai
absolument.
Bon, avant de commencer mes news, je voudrais faire une petite dédicace à Liva Marvin. Hein, on la
oui,
soutient.
On la soutient, on fait un gros bisou.
On lui fait un gros bisou.
Je sais qu'elle a été très courageuse. Donc
oui,
voilà.
Un prompt rétablissement à toi, Liva.
Voilà.
Alors, je vais commencer les news. Désolé, Bruno, ça va dénoter un peu avec l'activité un peu de genre de ton magasin. Mm-hmm. Je vais parler des films d'animation de 2017.
Mais n'oublie pas
c'est
que
bien.
Les films...
Ça me va.
Oui, ça va, ça les va. Films d'animation, on en trouve chez toi.
Ouais.
Ah, bah, alors. Super. Alors, je vais vous parler de Lego Batman.
Ah, ça donc, va moins bien, soudain.
C'est un épisode, en fait, complètement délirant que DC a décidé de faire en comparaison des autres films...
De Lego, c'est ça.
Oui, de Lego, ou même des films qu'on connaît de Batman. C'est un opus qui est complètement délirant parce que la plupart des héros de la Justice League vont se retrouver en Lego face à tous les super méchants de Batman. Donc on va avoir droit au Pingouin, au Joker, à Double-Face, à Bane, et j'en passe. Et dans le scénario, on apprend que Batman va devoir apprendre à travailler en équipe. Et surtout apprendre à sourire parce que Batman est toujours tout grincheux. Donc du coup, oui, c'est l'univers Lego oblige. On va en avoir plein les yeux et ça va être un programme à voir en famille, voire entre potes. Voilà, sortie prévue le 8 février 2017.
C'est sympathique les films Lego.
Oui, et puis les films Lego c'est complètement délirant, donc il faut aller les voir. Voilà.
En plus, ça permet aux jeunes de s'intéresser au cinéma aussi, après chercher la suite.
Mais oui,
tout
et
à
puis,
fait.
Cet épisode de Lego Batman, moi à mon avis, vu la bande-annonce surtout, moi je trouvais ça assez attirant. Cars 3, troisième volet. Donc dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d'un sport qu'il adore. Pour revenir dans la course et prouver que le numéro 95 a toujours sa place, il devra faire preuve d'ingéniosité. À partir de ce moment, tout va changer. C'est l'accroche dramatique de Cars 3 qui annonce un retour pesant pour le célèbre bolide Flash McQueen et qui présentera, du coup, un nouveau personnage nommé Cruz Ramirez, un petit véhicule mécano. La sortie est prévue pour le 2 août 2017.
C'est des films pour enfants, ça, vraiment. Les histoires de voitures, mais le metteur en scène est un grand fan de voitures, donc
voilà,
il s'est fait plaisir.
Je trouve que les deux premiers volets ont très bien fonctionné aussi. C'était drôle. Je trouvais que c'était très, très bien. Et là, le numéro 3 est un petit peu plus sombre, un peu plus tourmenté. Donc parce que voilà, c'est un peu une tendance aussi par rapport.
Donc je sais quoi t'offrir à Noël alors.
Oui, oui, s'il te plaît, Cars 3. Mais en vrai, hein, la vraie voiture.
Non, mais moi j'ai le petit modèle.
T'as le petit modèle. Alors en parlant de petit modèle, il y a Boss Baby, donc le réalisateur Tom McGrath, qui est à l'origine de la saga Madagascar, s'est beaucoup amusé à animer des humains dans Megamind. Il avait envie de recommencer, il s'est donc mis en quête d'une histoire à porter sur grand écran. Après avoir lu de nombreux livres, il est tombé sur le compte d'enfants pour de Marla Fraze, de Boss Baby, auquel il s'est beaucoup identifié grâce notamment à sa relation à son grand frère pendant son enfance. On verra donc un adorable petit bébé en couche et costume cravate parler et bouger comme un homme de 60 ans qui va bouleverser la routine de sa demeure familiale. Donc Boss Baby, prévu le 31 mars 2017.
On est en plein Noël, là.
On est en plein Noël. Toujours dans la fantasy, la féerie pour les tout-petits, les schtroumpfs, donc la schtroumpfette, le schtroumpf costaud, le schtroumpf à lunettes et le schtroumpf maladroit.
Là, je quitte le plateau tout de suite.
En filet en douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui mène regorge d'embûches, de créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs doubler de prudence puisque Gargamel n'est pas loin et compte bien les arrêter. Cette nouvelle adaptation se distingue des deux précédentes car il s'agit d'un reboot. Patrick, ouais. Un vrai reboot.
Un vrai de vrai ?
Un vrai de vrai qui reprend la série dans le village et finit les schtroumpfs dans un New York complètement à côté de la plaque de ce qui nous a fait rêver quand on était tout petit. Mmh. Donc la sortie prévue pour le 5 avril 2017. Voilà, pour terminer, Moi Moche et Méchant 3.
Ah, ça par contre j'aime bien.
Ah.
Moi j'ai bien aimé les deux
oui,
premiers
moi
volets.
Aussi, donc en plus c'est super drôle.
C'est super drôle. Mmh. Alors Gru, accompagné de sa jeune épouse Lucie, et oui, il a un cœur, il a trouvé l'amour, rencontrera un nouvel adversaire de taille, Balthazar Bratt. Le super méchant à la coupe de Ambrose et à la moustache brillante est un fanatique des années 80 et de son style. Pour sauver le monde, les jeunes mariés seront une fois de plus aidés par les trois orphelines adoptées par le savant dans le premier film de la série, Margot, Edith et Agnès, mais également par le professeur Nefario et l'armée des mignons fidèles. Au casting du film d'animation, l'humoriste Gad Elmaleh prêtera à nouveau sa voix à Grou pour la version française. Voilà, Patrick, les news, c'est terminé. La semaine prochaine, on parlera de Underworld Blood Wars.
D'accord. De toute façon, la semaine prochaine, c'est un spécial Star Wars.
Ouais.
Donc, on va voir tout ça. Maintenant, nous continuons par les sorties de la semaine. Ça va être assez rapide. Deux comédies françaises. Demain, tout commence avec Ormassi et Papa ou Maman numéro 2. Bon, c'est pas trop intéressant pour nous. Ce qui nous intéresse surtout, c'est Premier Contact, le film de science-fiction, on va dire, intelligent. Qu'est-ce que t'en penses?
Écoute, ça me tente bien, ouais.
Avec Amy Adams.
Je sais rien dessus, hein. Généralement, donc, voilà, je regarde jamais rien avant. Donc,
donc le metteur en scène a fait Prisoners, ce que j'adore personnellement, et qui va s'attaquer en plus à...
Ah, c'est Denis Villeneuve qui a fait...
Absolument.
Le...
Ah. Qui va s'attaquer...
Blade Runner.
Voilà, deux. Aïe, aïe, aïe. J'ai
Blade
peur.
Blade Runner 2049.
Mais même lui, hein, dans les dernières interviews, dit que... Il a un petit peu peur quand même de s'attaquer au projet quand même. Mais bon, bref.
Mais il a aussi dit, Denis Villeneuve, qu'il avait quand même un emploi du temps extrêmement chargé, qu'il se sentait un petit peu dépassé, mais qu'il était très content de ce qui lui est arrivé.
Ah, évidemment, vu les films qu'il a fait. Mmh. Alors, on va te parler rapidement du box-office français, avec toujours Les Animaux Fantastiques, avec plus de 800 000 entrées cette semaine. Il totalise quand même 2 300 000 entrées, ce qui est quand même assez sympathique. Le deuxième allié, bon, 464 000 en entrée. Inferno approche des 800 000 spectateurs, mais en 3 semaines, donc là, c'est une vraie cata. Il est très loin des deux autres, et puis le film est quand même moins bon que les deux autres également. Donc ça paraît quelque part un petit peu logique. Bon, tu diras point.
Il y a des disparitions qui font plaisir. Hein.
Voilà, exactement. Donc il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas un 4. Ça a été annoncé par les producteurs. Et puis, tu ne tueras point, le grand film de Mel Gibson, que j'adore personnellement, qui est peut-être le meilleur film de l'année. Plus de 400 000 entrées en 3 semaines.
C'est toi qui le dis, il y en a qui ne le disent, qui le pensent pas.
Il y a d'autres gens qui ne le pensent pas.
Il y en a quelques-uns, j'ai eu quelques critiques.
Ah bon, bah c'est pas grave, moi je continue sur la lignée. Hein.
Tu peux redire le nombre d'entrées là pour le...
400 000 entrées en 3 semaines.
Ah quand même.
400 000 entrées en 3 semaines.
Ouais. C'est pas mal pour un film quand même d'auteur.
Mais Inferno,
hein.
il a
fait 800 000 entrées, mais Inferno, normalement, il doit faire 2 millions d'entrées en 3 semaines.
Ouais.
C'est pas le même budget, c'est pas la même capacité et c'est pas les mêmes objectifs, tout simplement. Au CSA, pas grand-chose, 21 millions de dollars de recettes pour Les Alliés. Donc c'est un peu une déception. Et puis Bad Santa 2 a fait 10, et il n'atteindrait pas le score du numéro 1. Qu'on avait fait 60 millions de dollars.
Je ne savais pas qu'il y a un Bad Santa 2.
Voilà. Donc il est sorti au CDU. Je ne sais pas s'il sortira en France, vu qu'il ne fonctionne pas énormément aux États-Unis. Maintenant, nous allons avoir la musique de Zombies, des Goblins, pour notre invité avant de parler du magasin Metaluna et de sa passion dévorante pour le cinéma fantastique. donc de retour avec Bruno Terrier qui va nous raconter beaucoup de choses sur son magasin d'abord et après sa passion pour le cinéma fantastique. Alors raconte-toi un peu ton parcours pour arriver au dernier magasin que tu t'occupes actuellement qui est Metaluna. Ouais. À quelle adresse ?
Au 7 rue d'Andes, dans le 5e à Paris.
Voilà, et c'est ouvert du lundi au samedi ?
Non. Ah. Du mardi au samedi.
Du mardi au samedi ?
De 11h30 à 19h30.
D'accord. Alors raconte-nous.
Ça veut dire qu'il profite bien de son week-end. Hein.
Voilà.
J'ai pas toujours connu ça, mais là, j'en profite.
Et alors raconte-nous un peu toutes tes péripéties, parce que c'est pas le premier magasin de tu t'occupes.
Effectivement. En tout cas, Metaluna Store, donc la boutique où je travaille actuellement, c'est l'extension de la première boutique spécialisé en cinéma fantastique à Paris, qui était Movies 2000, qui était la boutique de Jean-Pierre Putters, qui a créé Mad Movies, et dans lequel j'ai travaillé un peu il y a pas très longtemps. Et on a déménagé, ça fait 4 ans et demi maintenant, voilà. Et on est dans le 5e, c'est la même chose, on a juste pour des raisons de droit dû changer le nom de la boutique.
Tout simplement. Et comment s'est passée la rencontre avec Jean-Pierre ?
Ma première rencontre avec Jean-Pierre.
Absolument.
Ah oui, mais alors ça remonte à il y a beaucoup plus longtemps, puisque en fait, ça existe depuis 37 ans, Movies 2000.
Et c'était lui qui était à l'intérieur.
Et la première fois, plein d'autres choses remontent avant, mais bon, en tout cas, la première boutique que j'ai connue, effectivement, qui était le lieu de rendez-vous de tous les fans de Fantastique dans les années 70. Et donc au siècle dernier, c'était Movies 2000, voilà. Et donc ça faisait partie d'un parcours où les gens qui faisaient des fanzines se retrouvaient à 14h à l'ouverture de la boutique, et c'est Jean-Pierre qui la tenait à l'époque. Et donc moi j'étais hyper impressionné, hein. Et donc pendant des années en fait j'étais juste client et on n'était pas amis comme on l'est maintenant, et je lui parlais pas vraiment, du moins j'osais pas, voilà. Et puis les années ont passé, j'ai travaillé dans plein d'autres boutiques de comics américains, de cinéma, à Album, à Gotham, à MK2 à une époque, etc. Et on s'est retrouvés là il y a quelques années maintenant à Movies 2000. Et puis on a monté ce projet ensemble d'une espèce d'extension de cette boutique dans un lieu un peu plus grand, etc. Et qui s'appelle maintenant Metaluna Store.
Et qui est extrêmement bien placé puisqu'il y a d'autres boutiques autour.
Ça reste dans le quartier où j'avais déjà travaillé pendant des années, hein, qui effectivement a un peu perdu de l'aura qu'il pouvait avoir à l'époque, mais qui reste un quartier où il y a une certaine concentration de boutiques spécialisées, bande dessinée, cinéma, jouets, BD anciennes, etc. Ouais.
Et tu vends aussi des t-shirts et d'autres choses ?
Donc on a gardé, on a un peu plus étendu parce qu'on a plus de place qu'à Movies 2000 qui était dans le 9e et qui était vraiment une toute petite boutique. Effectivement, on vend tout ce qui est lié au cinéma fantastique puisque c'est quand même un peu notre spécialité. Donc c'est les revues, des bouquins, des photos, des affiches et des DVD, des Blu-ray bien sûr, des BO, etc. Et c'est un peu plus élargi quoi. Quand même, on ne fait pas que dans le fantastique et le cinéma de genre.
Et comment ça se gère un magasin ?
Comment ça se gère ?
Avec la compta.
Ah, la compta, je les ai rarement rencontrés. C'est compliqué en ce moment. Il y a plein de raisons pour lesquelles c'est compliqué. Hein. Parce que les boutiques spécialisées, comme je le disais, ça n'a plus l'aura que ça avait. L'arrivée d'Internet a changé beaucoup de modes de consommation des gens. Donc en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, au-delà du conseil au jour le jour, pour les clients, c'est essayer de perpétuer un peu à la fois l'esprit collectionneur, les gens qui veulent en fait acheter des objets physiques, des éditions collector des films, de l'import, etc. Alors qu'il y a évidemment maintenant des tas d'autres moyens à la fois de se les procurer, mais aussi de les voir, et pas toujours les meilleurs moyens.
Mais pas dans la même, et pas au niveau de la qualité, évidemment, c'est pas du tout la même chose.
Et puis ce qu'on essaie de faire en plus, parce que justement c'est pas suffisant, c'est justement que ça soit un lieu où les gens fans peuvent se retrouver, se donner rendez-vous, accessoirement nous acheter des choses, ce qui est cool aussi. et puis on le fait de plus en plus en fait le samedi, on organise des dédicaces, des rencontres,
Et depuis combien de temps vous avez décidé à Metaluna d'inclure des dédicaces ?
En fait, on l'a toujours fait. On essaie juste de le faire de plus en plus souvent. Mais on le faisait déjà à Mavis 2000. Tu vois, on avait reçu Sergio Martino, on avait reçu Joe Dante, Lloyd Kaufman, des gens comme ça. Et donc, en fait, là, on le fait juste plus systématiquement dans la mesure des possibilités. Quoi. Parce que finalement, ça anime quand même beaucoup la journée du samedi. Ça fait venir pas mal de gens. Et bien c'est un complément indispensable à notre activité quoi.
Et prochainement
donc alors
c'est le fameux samedi puisqu'il ouais. va se passer ouais. beaucoup de choses ouais, ce samedi là en particulier
ouais, qu'est-ce qui se passe samedi
donc samedi ben je travaille sinon ben ouais c'est une grosse journée de dédicace parce qu'en fait et ça s'est goupillé par hasard et c'est tant mieux. On a de 14h à 17h on a Romain Basset qui vient dédicacer son film Orsay, qui est un film fantastique français super bien. Et ensuite, grâce aux gens du PIF et à Cyril, entre autres, on a Dario Argento, qui est quand même le réalisateur culte italien, qui vient dédicacer. Voilà. Donc là, c'est.
Et là, c'est une autre paire de manches.
Ouais. C'est, enfin, ça, si ça pose, ça pose peu, pas de problème.
Explique-nous un peu ouais. comment ça va se passer. Cette fameuse rencontre ouais. avec Dario Argento.
Ouais, donc en fait, la dédicace de l'après-midi pour Romain, même s'il y a beaucoup de gens d'inscrits, parce qu'en fait, on fait un événement Facebook pour signaler aux gens la présence d'une dédicace, c'est entrée gratuite et c'est il n'y a pas de réservation ni quoi que ce soit, voilà, donc tout se passe bien. Pour Dario Argento, comme il reste que 2 heures et que quand même c'est forcément une pointure, on a fait un système tout simple de qui est nominatif et numéroté, voilà, avec un nombre précis de gens pour que tout le monde puisse passer, et avec un temps limité, etc. Et donc, à ce moment-là, la dédicace est complète depuis longtemps, on sera fermé, et les gens rentreront au fur et à mesure, et je pense que tout va bien se passer. Quoi.
8 par 8, c'est ça ?
10 par 10.
Ah, 10 par 10, ça a changé. Et alors, de quoi as-tu peur que les gens sortent pas de la... du magasin, c'est ça?
Non, mais je pense que ça va aller. Mais ce qui est important, on en parlait tout à l'heure, c'est que finalement, mais beaucoup de gens viennent là, justement, à la fois, évidemment, pour voir Dario Argento, avoir une dédicace, etc. Mais aussi, beaucoup de gens viennent de province, des gens qui se connaissent, notamment à travers Facebook, mais qui se connaissent pas en vrai, et pour eux, ça va être l'occasion. Donc, ça, tu vois, c'est un côté un peu festif.
C'est une continuité avec le Bloody, quoi, week-end.
Ouais, c'est tout à fait le même principe. Et évidemment, il faut que tout se passe bien, donc que tout le monde coopère. Voilà, ça sera. Tout le monde va rentrer comme prévu, il n'y a pas de souci.
Il y a beaucoup de gens qui étaient au Bloody, qui viennent et qui se retrouvent. Ouais.
Mais on n'a pas.
Grâce à Metaluna.
D'ailleurs, là, il y a au moins plus de la moitié des gens qui viennent que j'ai effectivement croisé au Bloody Weekend l'année dernière. Le truc, c'est qu'on n'a pas le même espace. Donc, forcément, un Bloody Weekend, c'est un espace assez grand et. Et en plus, les dédicaces n'ont pas de durée vraiment limitée. Nous, là, on est évidemment, on peut pas. Là, on a 68 personnes inscrites, en fait. Et vu l'espace, on ne peut pas faire entrer 68 personnes en même temps. Donc,
Et puis, ce serait même dangereux. À l'intérieur, si les 68 personnes commencent à pousser à vouloir l'interview d'Argento. Même si les fans de Fantastique sont en général des gens extrêmement sympathiques.
Ouais.
Voilà, musique, maestro. Thank you. Voilà, c'est une version un peu...
Amour, gloire et beauté.
Voilà, un peu spéciale de Rocky, je pense que vous l'avez tous reconnu, le combat continue. Alors, Bruno, dis-moi comment ça se passe dans le magasin, es-tu libre de faire ce que tu veux, es-tu en rapport avec Jean-Pierre continuellement sur les achats
Non, en fait, à l'origine, la boutique appartient à une société qui s'appelle Metalina Productions et qui s'occupe, comme son nom l'indique, principalement de production de films. Donc moi, je m'occupe de la boutique. Voilà. Donc au-delà des restrictions de budget qu'on peut avoir, c'est moi qui décide totalement de ce qu'on vend, comment on le vend, à qui on l'achète, etc.
Et des commandes, etc.
Ouais. Et Jean-Pierre, on se voit régulièrement. Voilà, il s'occupe pas vraiment de la boutique de manière directe, mais il y vient souvent et il vient souvent justement, on fait des dédicaces avec ces fameux macarons. Et voilà.
Et alors, raconte-nous un peu ce qui se passe à Metaluna, à part le magasin, la production. Il y avait un magazine aussi à une époque.
Ouais, donc il y a eu... voilà, en fait, c'est de toute façon, à l'époque où Movies 2000, dans le 9e, ça s'appelait toujours Movies 2000, donc, il y avait déjà Metaluna Productions. Et c'est donc société de production d'abord. Ensuite, il y a eu le lancement... tout est arrivé à peu près en même temps. Il y a eu le lancement d'un magazine qui a d'abord été un fanzine... ou un prozine avant, et qui est devenu un vrai magazine distribué en kiosque, qui malheureusement a marché, mais n'a pas trouvé son public et s'est arrêté au bout de 9 numéros. Et donc ça a été la suite logique quand on a déménagé, puisque c'était à peu près au moment du... C'était au troisième numéro, je crois, de Metaluna. Donc le sous-sol de la boutique où on est servait de bureau pour la rédaction aussi. On faisait toujours une fête au moment de la sortie d'un nouveau numéro. Et donc c'est pour ça, voilà, qu'on a appelé parce que Jean-Pierre et parce que Fabrice Lambeau, qui sont donc les deux associés de société de prod, étaient fans des Survivants de l'Infini, et qui est un film de SF des années 50.
Excellent film.
Ouais, super bien. Et donc dans lequel il y a une planète totalement fictive, évidemment, qui s'appelle Metaluna. Et donc, on a collé Metaluna et Store derrière, et le tour a été joué.
Et la production ?
Production, c'est très compliqué. Mais
il y a combien de films qui ont été produits pour la
En comptant les courts-métrages, les documentaires, comme ça, de mémoire, je dirais 5-6. Et puis, là, ça s'est super compliqué, ces dernières années, la production de films fantastiques particulièrement. En France, principalement suite aux attentats tout ce qui a pu se passer de terrible dernièrement, où les gens sont extrêmement frileux sur le cinéma horrifique, sur la violence, etc. Et donc il y a plein de projets en cours, mais voilà, ouais, c'est très compliqué.
Pas facile.
Non.
Et pour le magasin en lui-même. Comment tu fais évoluer à l'intérieur ? Est-ce que tu as des idées nouvelles à chaque fois pour mettre en avant certains titres que tu commandes ? Ça se passe comment ?
Écoute, on s'adapte finalement à la clientèle, hein, qui est malgré tout aussi de plus en plus âgée comme moi. Parce que les gens qui collectionnent les films... les gens qui aiment le cinéma fantastique et qui aiment le cinéma de genre un peu ancien, etc., c'est beaucoup plus dur, en magasin du moins, d'accrocher une clientèle plus jeune, quoi. Donc, on ne fait pas de véritable innovation, comme je te disais, à part les dédicaces, voilà, qui génèrent plus de passages et où c'est un peu plus varié, on va dire. Les clients de tous les jours, c'est plutôt des clients fidèles qui finalement... assez étonnamment, ça s'est super bien passé au moment où on est passé de Movies 2000 à Metaluna Store, puisque ça s'est fait assez rapidement, et que tous les clients qui étaient des habitués depuis des années de Movies, qui était un peu l'institution, ont suivi sans aucun problème. Quoi.
Et voilà, nous allons passer un petit peu de musique et nous reviendrons toujours sur le sujet de Metaluna et de ta passion pour le cinéma.
Yep. Thank you.
Vous êtes en compagnie de Patrick dans Ciné Forever, l'émission sur le cinéma. Voilà, nous continuons avec Bruno Terrier concernant le magasin Metaluna. Alors, comment ça se passe à l'intérieur ? Est-ce que tu n'as pas des problèmes avec les gens qui viennent te narguer du style « moi je peux voir les films en téléchargement
?» Si, bien sûr, régulièrement. Et j'exprime souvent mon avis à ce sujet sur Facebook, un peu trop souvent, paraît-il. Mais effectivement, ouais, c'est un problème. Enfin, c'est un problème. En soi, par rapport à la boutique, pas vraiment, parce que de toute manière, les gens qui sont passés à ce mode de consommation, qu'il soit légal ou illégal d'ailleurs, de toute façon, ne seront jamais clients à la boutique de toute manière. Moi, ce qui me...
Mais c'est pas un peu des badauds, quoi, on va dire, qui viennent dans le magasin pour t'embêter un petit peu.
Non, en fait, t'as deux types d'attitudes pour les gens qui sont de passage, parce qu'on est quand même dans un quartier assez central, et qui est le chemin entre le quartier latin, le boulevard Saint-Germain et Notre-Dame. Donc, pas mal de gens passent dans cette rue. Donc, peuvent effectivement, à un moment ou à un autre, rentrer par hasard. C'est quand même assez rare que les gens soient agressifs ou sortent des blagues de genre. Par contre, ce qui, moi, me chagrine le plus, quelque part, et qui est souvent assez systématique, c'est des gens plutôt jeunes qui font donc, comme on le disait tout à l'heure, le tour des boutiques du coin où tu as des jouets, des comics, de la bande dessinée, etc. Et qui rentrent là par hasard, parce que la vitrine, on a une vitrine assez sympa.
Et qui fait chaud, c'est ça ?
Ouais, qui a été fait par Alexandre Attané, d'ailleurs, que je remercie, parce que c'est super bien ce qu'il a fait. Et en fait, rentrer en quelques secondes, disent « Ah bah ouais, c'est juste des films, et voilà, c'est tout. » Puisque finalement, il n'y a plus besoin en réalité, d'une manière ou d'une autre, pour voir des films, au dehors du cinéma, d'avoir à les acheter en fait.
Mais c'est souvent des jeunes, je pense, parce que c'est plutôt une...
Ouais, mais voilà, c'est principalement des jeunes, mais pas que, mais principalement, qui ont ce genre de remarques. Qui te le font pas remarquer directement, mais qui le disent suffisamment fort pour que tu puisses l'entendre. Et je trouve ça un peu...
Dommage.
Un peu dommage, oui. Voilà.
Surtout que quand on trouve un bon film chez toi, il y a quand même la qualité, la pochette et les suppléments qu'il n'y a jamais en téléchargement.
Ben là, il y a même un... En fait, le marché a beaucoup changé, hein, et c'est carrément effondré ces dernières années. Au niveau les majors, à part quelques gros films, évidemment, contractuellement, qui sortent encore en DVD ou en Blu-ray, ne sortent plus de fonds de catalogue quasiment. Et ce fonds de catalogue devient justement accessible, et ça c'est très bien, à des éditeurs indépendants qui sont avant tout des fans, qui peuvent éventuellement, si tout se passe bien, en faire leur métier. Et ils ont accès à des films auxquels ils n'auraient jamais eu accès avant, et ils s'en occupent bien mieux que les majors, en faisant des éditions super sympas, avec des bouquins, des suppléments, des livrets, tirages limités, etc. Et là, ces derniers temps, il y a plein de choses qui sortent. Plus le marché devient spécialisé, pointu, plus de choses, en tout cas dans le cinéma de genre, sortent en DVD ou en Blu-ray.
Là, en ce moment, qu'est-ce qui est d'actualité justement par rapport aux sorties ?
Ben là, par exemple, il y a un éditeur qui s'est spécialisé ces derniers temps dans le cinéma italien de genre, donc qui va justement, parce qu'on parlait d'Argento, la dédicace de samedi, le dimanche au PIF, là, au Festival du Film Fantastique, il y a une copie neuve de Opéra, un de ces films de Argento. Qu'on ne voit plus en France depuis bien longtemps.
Et l'un de ses derniers.
Et un de ses
derniers de qualité, films, on va
après,
dire.
Voilà. Si on se lance sur Argento, là, on est mal. Vu qu'il y a toujours.
Ouais, il faudrait plus qu'une émission, je crois.
Mais, en tout cas, voilà, le film va être présenté en copie neuve, une nouvelle copie qui a l'air magnifique. Et cet éditeur, on a acquis les droits et va le sortir au mois de mars dans une édition collector avec plein de suppléments. Il y aura
voilà, il
évidemment
passe,
une interview de Dario, etc.
Il passe au PIF voilà, dimanche à 16h.
Dimanche, ouais, c'est ça. Et voilà, donc ça par exemple, c'est un éditeur qui a d'abord par passion, mais aussi trouvé l'identité pour amener les gens à redécouvrir ses films dans les meilleures conditions. C'est quand même
important. Tu peux citer le nom de l'éditeur en question ?
Oui, il a un nom, c'est une histoire d'alcoolique si je me souviens bien, mais en fait, il s'appelle Le Chat qui Fume.
Le Chat qui Fume,
ouais,
d'accord.
Ouais.
Donc voilà. C'est un éditeur français,
ouais, tout à fait français,
qui n'édite pas du coup que derrière Argento, il a d'autres artistes.
Non, ils avaient commencé il y a quelques années, puis avaient laissé tomber ensuite, et là ils sont revenus vraiment spécialisés dans le cinéma italien de genre années 70-80, Donc là, voilà, il y aura deux grosses sorties. Il y en a eu trois cette semaine, mais il y aura deux grosses sorties en début d'année, donc l'Opéra L'Argento. Et puis un film pareil, super rare et qu'on n'a plus vu depuis l'époque de la VHS en France, de Lucio Fulci, un de ses meilleurs, enfin le meilleur pour moi, qui s'appelle, un titre français stupide, mais bon, La Longue Nuit de l'Exorcisme.
Excellent film de Fulci.
Qui est magnifique. Et donc voilà, ils vont sortir ce genre de choses. Et ça, c'était inaccessible pour des raisons de droit et de budget autrefois. Mais maintenant que le marché s'est resserré et spécialisé, des éditeurs indépendants qui sont avant tout des fans peuvent se permettre de sortir ce genre d'édition. Après, les tirages sont limités, donc ça favorise aussi un achat plus immédiat, on va dire.
C'est, d'après toi, c'est combien les tours? 1000
généralement, c'est ça? Ouais, alors, ça démarre à 1000, et alors pour un gros titre, de mémoire, je crois que le précédent Fulci qu'ils avaient sorti et qu'ils ont épuisé une première fois, Le Venin de la Peur, qui était très bien aussi, je crois que c'était 2500, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça reste des petits tirages, mais en tout cas, ça se vend et ça a une certaine rentabilité, donc c'est super.
Il faut dire que ce qui est très intéressant, c'est que Fulci, on connaît que ses films en général de zombies, on va dire. Hein. Mais là, il y a deux grands films de Fulci qui sont très importants, La Longue Nuit de l'Exorciste et L'Homme Muraille Vivante, qui sont des thrillers, on va dire, et qui sont d'une grande qualité. Et on est très très heureux qu'ils puissent sortir.
Ben ouais, parce que voilà, à l'époque, c'était Neo Publishing qui avait sorti ses films les plus connus, Frayeur, Maison près du cimetière, Au-delà et L'Enfer des zombies. Mais les deux films dont on vient de parler, eux, n'étaient jamais ressortis en France, quoi. Donc c'est super que ça ressorte.
Des qualités pas géniales, quoi. C'est le mot qu'on puisse dire.
C'était de la VHS, c'était de l'import, où il y avait que de l'anglais mais pas de français, où c'était pas les versions intégrales, etc. Et là, ils font un super boulot, quoi.
Et puis c'est pas évident avec les Italiens, les problèmes de copie, de master, etc. Stéphane Dardagnan, qui viendra bientôt nous en parler, spécialiste dans les droits de films italiens. Ouais. C'est très très compliqué, il y a beaucoup de problèmes.
Pour récupérer le bon matériel.
Ah bah voilà.
Maintenant, il y a, comme on le disait, voilà, c'est en fait, il y a un marché de niche pour ça. Donc les Italiens font, parfois eux-mêmes, souvent d'ailleurs, des nouveaux Master HD qui vont servir aussi après à l'exploitation sur le câble à la télé, etc. Et des petits éditeurs comme ça, il y en a plein d'autres. Il y a Ecstasy of Film, il y a ESC là, qui existait déjà mais qui commence à spécialiser dans le fantastique américain années 80.
Avec Fantasme, qui vont faire le coffret, et Hellraiser aussi.
Et Hellraiser aussi, ouais. Et qui là vient de sortir La Colline à des yeux dans une édition magnifique aussi. Voilà, c'est ce marché qui, malheureusement, moi je trouve, est insuffisant par rapport à la qualité du travail, mais voilà, qui fonctionne sous ce modèle-là.
Mister Abou, un peu de musique. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let die. We'll be right back. Voilà, vous venez d'écouter Live and Let Die, Paul McCartney and the Wings, tiré du film James Bond, Vivre et laisser mourir, chanson qui a été reprise par les Guns N' Roses, n'est-ce pas, Aurélia ? Et nous continuons avec Bruno, Monsieur Bruno Terrier. Nous allons continuer. Alors, comment ça se passe dans le magasin ? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter ? Est-ce que tu as eu des vols, évidemment ? Comment tu peux des lutter vols. Contre tout ça ?
Ouais. Il y a eu une grande période du vol de DVD, hein, que ça soit là ou ailleurs, parce que ça avait une valeur marchande, ça pouvait être vendu facilement. Bon, c'est plus trop le cas, vu comme on le disait que le marché a évolué dans un autre sens. Non, du vol, ça va. On a deux, trois voleurs qui traînent par là, mais rien de grave.
Est-ce qu'il t'est arrivé, par exemple, des gens volent des choses et ils reviennent te les vendre ?
Moi, ça, heureusement, ça m'est jamais arrivé personnellement, parce qu'il faudrait vraiment être idiot. Mais par contre, si tu veux une anecdote de genre, ça c'était mais il y a longtemps. C'était dans le même local, mais à l'époque ça s'appelait album DVD. Enfin, album cinéma, puisque c'était avant le DVD où on vendait du laserdisc et de la VHS. Et on avait pris un remplaçant là, un midi, pour aller déjeuner. Et en fait, un type et le laserdisc c'était très très cher à l'époque. Des centaines d'euros en équivalence, avait pris toute la lettre, je crois que c'était H et I, je crois, donc une vingtaine de laserdisques, on va dire, était parti avec.
Quand même.
Et ouais, pas mal. Et donc moi, toujours à ce moment-là, j'étais en pause déjeuner, et le type est revenu une demi-heure après et les a revendus à la personne qui était en caisse, qui a évidemment rien remarqué, donc c'était plus qu'évident. Voilà, et c'était son premier et dernier jour à la boutique.
Est-ce que tu es toujours, bien sûr, à la recherche de nouveaux titres avec des suppléments à travers la planète, hein, c'est ça ? Comment tu fais pour essayer de trouver tout ça ?
Bah en fait, maintenant, évidemment, Internet aide beaucoup. Hein, tu as beaucoup de sites de renseignements et de sites de chroniques qui permettent, évidemment, le meilleur moyen est de les regarder soi-même pour avoir son avis personnel. Mais tu as quand même beaucoup de services de presse finalement pour l'import des sites américains ou italiens ou allemands ou autres qui chroniquent les films à l'avance, enfin les éditions à l'avance. Ça permet d'affiner le choix, voilà. Mais t'as quelques sites qui te donnent les bons renseignements sur les sorties. Le site de base en tout cas pour le Blu-ray, c'est un site américain qui est dans toutes les langues aussi et qui s'appelle Blu-ray.com. Qui met de la nouveauté et de la chronique tous les jours et qui annonce à peu près toutes les sorties. Ça donne déjà une bonne base pour passer des commandes. Étant donné que nous, on fait, à part de l'import japonais, parce qu'il n'y a pas grand-chose et c'est quand même très coûteux, on fait évidemment des éditions françaises, mais on fait de l'import d'à peu près tous les pays. Ouais.
Et toujours à la recherche, il y a encore des films qui ne sont pas sortis dans une copie magnifique, je suppose. As-tu des titres en tête ?
Des titres que j'aurais envie de voir la sortie, ben là par exemple il y a un film que moi j'adore et qui encore on est dans le sujet puisque ça s'appelle La Résidence, film espagnol de Serrador qui a eu une influence certaine au niveau visuel sur le cinéma d'Argento justement. Pour l'instant c'est il n'y avait qu'une édition DVD chez René Château que beaucoup de gens connaissent parce qu'elle a été soldée un peu partout. Qui n'était qu'en VF au format et intégral, mais en 4 tiers, donc pas en anamorphique. Et les Allemands l'ont aussi édité, mais dans des conditions moyennes. Et là, en fait, il y a un éditeur américain spécialisé qui est vraiment excellent dans le genre, qui s'appelle Shout Factory. Et ils le sortent là dans une dizaine de jours.
Voilà. Avec un sous-titrage français peut-être
ou... Alors ça c'est le problème, par contre il y aura donc la version, il y aura le montage américain en anglais, il y aura la version espagnole sous-titrée anglais, version intégrale, mais par contre non, il n'y aura pas, comme bien souvent avec les éditeurs indépendants des autres pays, pour des raisons de droit, il n'y aura pas de sous-titres français, et le Blu-ray sera régionalisé en fait, parce que comme pour le DVD, il y a différentes régions suivant les territoires, et là c'est du région A américain, donc à moins d'avoir un lecteur multi-région, ce qui existe, hein, mais ce sera un disque qui ne sera pas lisible sur les machines françaises.
Ah, c'est dommage, mais bon, ouais. Pour les fans, certains mais sont prêts à acheter des lecteurs de zone A, ouais, certains.
Ça se trouve, hein, ça se trouve. Et puis c'est, voilà, ça c'est typiquement le film où ça fait. Moi je l'ai revu à la Cinémathèque il y a une vingtaine d'années, je pense, dans une très belle copie qui doit toujours y être. Il n'y avait jamais eu nulle part dans le monde une édition satisfaisante, quoi. Donc c'est super que ça sorte.
C'est un film de quelle année ?
75, si je ne dis pas de bêtises. 13 ou 15, j'ai un trou.
C'est juste avant que Argento ait fait Suspiria, c'est ça ?
Ouais, enfin le lien, voilà, c'est pas, il n'y a pas d'influence vraiment directe, mais on trouve en tout cas cette ambiance du cinéma européen gothique, l'érotisme, côté horrifique, fantastique, et ça colle très bien.
Ça a été le précurseur dans le cinéma espagnol, puisque spécialisé aussi quelque part dans le cinéma d'horreur.
Mais il a fait un autre film, ce réalisateur qui est fabuleux et qu'on a heureusement en DVD, mais pas en Blu-ray pour l'instant, dans une très belle copie, c'est Révolté de l'an 2001.
Puisque après, il y a eu pas mal de films espagnols qui ont quand même marqué l'histoire du cinéma fantastique.
Ouais, le cinéma espagnol, c'est, on va dire que dans ce genre, ce que les Anglais appellent l'horreur. Ce qui marche le mieux, c'est toujours le cinéma italien, quoi. Que ce soit le giallo, l'érotique, le polar, etc. Le cinéma espagnol, c'est beaucoup plus compliqué.
Pourquoi ?
Écoute, je sais pas vraiment, parce qu'il y a des super films. Après, les réalisateurs, c'est plus disparate, ils sont moins connus, les films ont été moins vus finalement. Et pourtant, il y a des films absolument incroyables, quoi, mais qui. Je le vois en général chez nous, et puis de toute façon, en général, c'est. C'est toujours, on va dire, les ventes de films espagnols de genre, c'est toujours la moitié des films italiens à peu près.
Voilà. William, tu nous laisses et tu en retrouves la semaine prochaine.
Oui, oui, j'ai rendez-vous, donc je vais devoir vous laisser. Juste avant, je voudrais faire une petite annonce, puisque bientôt nous allons avoir en partenariat un site qui s'appelle Scénar Mag, qui est dirigé par William Potillon, j'espère que William, je n'écorche pas ton nom de famille, qui nous écoute, parce qu'il est fan de l'émission. Et donc Scénar Mag parle en fait des règles de narration en scénario. Donc très intéressant pour tous ceux qui sont intéressés par l'écriture, c'est un site. Donc www.scenarmag.fr. Et donc bien entendu, on aura l'occasion de reparler de Scénar Mag et pourquoi pas.
J'espère l'avoir parmi nous. Voilà. Et ainsi que les vainqueurs de scénarios à travers son site, tout simplement.
Je vous dis à la semaine prochaine. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir. Salut. Bruno. Bonsoir Patrick. Merci. Bonsoir Abou. Au revoir à tous.
À jeudi prochain.
Voilà. Nous, on continue. Hein. Si tu veux bien, Abou, il n'y a pas de problème.
Il
y a encore pas mal de choses à dire, à raconter, comme on dit. Mm-hmm. Pendant ce temps-là, on va passer un petit morceau musical.
Un de mes préférés. Thank you.
Voilà, vous venez d'entendre La planète des singes de Jerry Goldsmith, 1968.
Un film
assez étrange quand même.
La musique, ouais, elle faisait peur. Je passais ça à mes enfants quand ils étaient tout petits pour qu'ils bougent pas. Et ça marchait, donc.
Oh, le martyr.
Ah, il faut trouver une méthode. C'est pas toujours simple avec les enfants de notre époque, on va dire.
Tout à fait.
Alors, nous allons continuer à parler, bien sûr, de Metto Luna, Bruno. Mm-hmm. Qu'en tires-tu de l'expérience du magasin après 4 ans ?
Écoute, mais comme je le disais, je ne veux pas non plus pleurer sur la situation, mais c'est compliqué. C'est forcément compliqué de nos jours. Avec les évolutions de consommation, etc. Ça avait, quand on est arrivé, en fait, ça avait franchement bien démarré. Après, il y a eu quelques passages à vide. Là, ça va à peu près en ce moment. Mais
dû aux éditeurs français.
Mais dû, ben ouais, ça participe pas mal là, le fait qu'il y a un bon retour. Il y a eu un petit passage à vide là, un bon retour des éditeurs français qui se lancent dans le genre. Mais il y avait Carlotta qui avait lancé, qui est toujours en cours d'ailleurs, une collection pareil films. Film bis fantastique américain années 80. Là maintenant tout le monde prend un peu
la mesure,
la même direction. Donc plus il y a de choses qui sortent, ben, forcément plus on peut satisfaire les collectionneurs. Faut pas en abuser non plus et sortir 20 titres par mois, sinon c'est impossible de suivre. Mais c'est plutôt bien, voilà.
Et les dédicaces, ça a apporté quand même quelque chose au magasin, non?
Les dédicaces, en fait, ça évidemment, si les gens qui viennent aux dédicaces en profitent pour faire leurs achats, et puis notamment si c'est la dédicace d'un livre ou la dédicace d'un DVD qui vient de sortir, les gens vont l'acheter, voilà. Donc ça, c'est cool, hein. Ça permet, le mot qu'on emploie généralement dans le commerce, c'est trafic, mais c'est un peu vulgaire, mais voilà, ça permet que les gens, en tout cas, peuvent se donner rendez-vous à ce moment-là et cumuler, voilà, le fait de se voir, de faire quelques achats, d'assister à une dédicace, et ça, c'est
dans le magasin,
super animation et du
choses,
samedi, quoi, ouais.
Et bon, il y a eu quand même pas mal de grandes dédicaces chez toi, puisque il y a eu quand même le réalisateur de Massacre à tronçonneuse qui est venu.
Ouais,
ça pas c'était... été trop l'émeute là.
Non, c'était cool, mais parce que là c'était on n'avait pas trop limité, parce qu'en fait il était disponible, pareil, on a profité, ça je tenais à le dire aussi, mais souvent on me demande mais voilà, t'as qu'à inviter un tel Carpenter, comme dernièrement qui a fait son concert au Rex, etc. Mais en fait, le problème d'inviter des gens comme ça, c'est qu'évidemment, il faut leur payer l'avion aller-retour, l'hôtel, le restaurant, ils viennent généreusement pas seuls, etc. Donc le seul moyen de le rentabiliser, puisqu'on n'a pas les moyens de faire autrement, c'est de faire payer une entrée. Et pour nous, c'est compliqué et c'est pas trop notre objectif. Donc en fait, on profite généralement, c'était le cas puisqu'on vient d'en parler là de Toby Hooper quand il est venu. Il y avait une ressortie de Massacre à la tronçonneuse, il y avait une projection au Rex qui était super d'ailleurs. La salle était pleine et en fait il est venu le lendemain à la boutique et c'était en semaine. Et comme c'était en semaine et en soirée et pas le week-end, il y a eu beaucoup de monde. C'était très bien, en plus ils l'ont annoncé au Rex, c'était très sympa. Mais c'était gérable, il n'y avait pas de problème. Voilà. Oui. Quand c'est le week-end et quand c'est un temps très limité, en plus Hooper avait été super sympa, il est resté une bonne heure de plus de mémoire. Mais quand c'est le week-end et que c'est quelqu'un de très connu, comme c'est le cas samedi avec Argento, là on est obligé de limiter, bien sûr.
Ouais. Et les prochaines dédicaces
Là, dans l'immédiat, la prochaine, c'est le 17 décembre. Ce sera en journée classique 16-19, comme on le fait souvent, avec Julien Cévéon, qui a terminé et qui a travaillé pendant plusieurs années sur le projet d'un livre sur Romero. Sur Georges Romero. Donc Georges Romero sera pas là pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Mais le bouquin a l'air magnifique. Et voilà,
il faut dire qui est Georges Romero. Hein. Pour il certains, faut... parce que je pense que
c'est pas le connaissance. Ben oui, ben alors justement, c'est aussi d'actualité, puisque Georges Romero est quand même spécialiste depuis 68, avec La Nuit des Morts Vivants, qui est un film très connu, des films de zombies. Et notamment, là, il a travaillé. En 78, hein, c'est ça, 77, enfin, au tournage, sur le deuxième qui s'appelle Zombie, qui est un film absolument incroyable et qui était coproduit
par le père de Dario Argento et pas vraiment co-réalisé par lui, mais en tout cas il en a supervisé un montage européen qui est celui qu'on a connu en France pendant longtemps
et qui est bien meilleur que le,
avec la fameuse musique montage, des Goblins.
Quel montage américain.
Finalement, oui, à part quelques scènes qui sont pas dans la version américaine cinéma, mais dans la version Director's Cut de Romero.
Ah, la scène avec l'hélicoptère et
voilà,
la tête.
Voilà, quelques scènes qui avaient été retirées, la lame, ouais. Qu'ils auraient pu laisser. Mais bon, mais sinon, le montage est plus resserré, la musique des Goblins est évidemment incroyable. Et donc, c'est cette version qui passe dans la nuit, là, au PIF,
pendant le festival.
Samedi soir, pendant le festival, ouais.
Qu'est-ce que tu proposais aux gens pour Noël, puisque on y approche? Quel Blu-ray, quel DVD tu leur proposais de venir te voir, d'abord te rencontrer, parler avec toi, ce qui est déjà super. Mmh, mais merci. Quel film tu leur proposais, par exemple, s'ils viennent te voir? Alors, propose-moi un film pour la famille en cadeau de Noël.
Un film pour la famille, ça va être compliqué.
Mais un film pour un fan de fantastique, ça sera plus simple, je pense.
Bah écoute, là, dernièrement, qui est vraiment d'actualité. Bah, en bouquin, franchement, le bouquin de Romero, je ne l'ai pas vu encore. Enfin, sur Romero, je ne l'ai pas encore vu. Mais il m'a l'air vraiment au top et ça, ce sera parfait.
Mais il n'existait pas un autre bouquin américain, non?
Oui, il y a eu déjà plusieurs bouquins américains. Ouais. Mais là, je crois qu'il est allé beaucoup plus loin. C'est un long travail et il y aura plein de photos et d'éléments inédits, d'anecdotes qu'on n'a jamais vues ailleurs, même dans un bouquin américain. Voilà. Sinon, là, en édition, là, tout de suite,
difficile. Dire,
ouais, c'est pas évident. Il y a toujours plein de trucs sympas, mais...
Comme
ben ouais, tiens.
Les films des jeux, ouais. Des chats qui fument, c'est ça?
Ouais, voilà. Justement, là, ils viennent de sortir un film italien qui s'appelle Pulsion Cannibale.
Bon titre.
Qui est vraiment sympa, qui n'était jamais sorti en version intégrale en France. Donc là, c'est une version intégrale, mais qui, de toute façon, qui n'était jamais sorti avant en DVD, il y avait qu'une VHS coupée. L'édition, je l'ai acheté hier, mais je ne l'ai pas encore regardé, mais elle a l'air très bien. Et puis, il y a quand même un paquet de suppléments dessus, dont un documentaire d'une heure sur le réalisateur Antonio Margheriti, fait par son fils, et qui a l'air vraiment excellent, rien que pour ça.
Ça vaut l'achat.
Quoi, ouais.
Puis il faut préciser aussi que Ecstasy va sortir en février et mars fameux coffret Réanimateur 1 et 2,
ouais,
qu'on attend énormément.
Une belle édition, d'après tout ce qu'on voit au fur et à mesure au niveau supplément ajouté et puis au niveau packaging, ça a l'air super beau. Ouais.
Ils avaient sorti The Punisher avant.
Ouais. Moi, c'est moins mon truc, mais bon, il avait fait une super belle édition qui s'est heureusement bien vendue pour lui. Ouais.
Voilà, ben on va vous laisser. La semaine prochaine, émission spéciale Star Wars. Nous n'avons parlé que de Star Wars, en gros.
Je ne serai pas là hein, pour Star Wars.
Ah bon, c'est dommage. Christian Lucas sera là pour vous parler de Star Wars, un des grands spécialistes en France en la matière à l'occasion de la sortie de Rogue One. Mais t'aimes bien quand même un petit peu Star Wars.
Ouais, ouais.
Mais en fait, petite dose,
ouais,
quoi, c'est
mais
ça
Star Wars, c'est une longue histoire. C'est parce qu'en fait, c'est devenu tellement important, et ça l'était déjà presque à l'époque, que travaillant depuis 35 ans dans des boutiques spécialisées, j'ai l'impression que chaque jour on me parle de Star Wars et que...
T'en as marre.
Sûrement que Christian, qui est un grand spécialiste, et j'aime bien l'embêter avec ça, aura plein de choses à dire. Mais en fait, bien souvent, les gens répètent toujours les mêmes âneries, quoi.
Ah bon? Ils répètent toujours les mêmes choses, en fait, c'est ça?
Ouais, la même chose.
Alors, on verra avec le spécialiste qui sera là ce jeudi.
Voilà, mercredi prochain, il sera
mercredi,
là.
Oui.
Spécialement pour vous, avec tout ce qui tourne autour de Star Wars. On vous fait un joli coucou. Et on espère vous voir mercredi, la semaine prochaine. Bruno, merci de ta visite.
Ah, merci à toi de m'avoir accueilli.
Et voilà, nous allons passer une chanson, un petit dédicace à Linda, la chanson finale de l'émission. Merci beaucoup à vous tous de nous écouter. Sisters, let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Yeah.
come through with the money in the garter belts. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake is for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a tar. High heel shoes, getting love from the Jews, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in a glass by the case, the meaning of expensive taste.
You want an enche, ay, ay.
Come on,
mocha chocolata.
What?
Rio Lady Mamu.
Madagascar et République. Toutes les îles sont représentées sur le média de l'océan Indien.
Écoutez la différence avec Dunia Web, votre meilleure radio. Dunia Web.